Quelle est la stratégie pour mieux comprendre sa glycémie afin de préparer ses courses? Réponse aujourd'hui avec Aude Bazin. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui proposent une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons donc à la rencontre d'Aude Bazin pour un épisode qui est un rebond de celui que nous avions fait avec Bruno Hobby sur les capteurs de glycémie. Je vous rappelle que Bruno nous avait expliqué comment il a préparé le triathlon, l'Embraman, en étant suivi par un capteur de glycémie Super Sapiens pendant sa préparation et sa course. Et ce suivi avait été fait par Aude Bazin, qui est diététicienne nutritionniste à Reims. Ce rebond nous permet de reparler de la glycémie, de ses variations qui sont dues à l'alimentation, bien entendu, de l'entraînement, mais aussi du stress. Et ça, c'est un élément dont je n'ai pas personnellement autant conscience, et Aude nous explique justement toutes les répercussions de ce stress, d'où il peut venir, et la répercussion aussi, notamment sur les minéraux qui sont dans notre corps. Aude nous donne aussi des clés pour comprendre comment utiliser ces fameux capteurs et la démarche globale qui va avec, bien au-delà de simplement regarder les données. Alors elle nous explique comment les utiliser, quand, pendant combien de temps, pourquoi, dans quel cadre, c'est vraiment intéressant. Comment apprendre à comprendre les données de ces capteurs, parce que moi j'avoue que j'en ai un, je saurais pas vraiment quoi en faire. Elle nous donne des astuces vraiment très précises sur l'analyse, mais aussi sur la composition des repas. Et finalement, pourquoi ne pas forcément les utiliser tout le temps et rediriger le budget économisé pour mieux manger ou prendre des compléments. Et puis Aude nous donne aussi une bonne excuse pour consommer quelques bonbons sur certaines de nos épreuves. Et là, ma gourmandise la remercie. Allez, c'est parti. Bonjour Aude.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci.
Alors, je te remercie pour avoir accepté l'invitation dans cet épisode. On va le dire, c'est une sorte de rebond par rapport à un épisode qu'on avait fait avec Bruno Hubi sur qui nous avait raconté ses aventures, j'ai envie de dire, ses préparations avec capteur de glucose. Et ça m'a fait rire parce que ce week-end, j'ai vu des gens, j'étais à un événement running, et j'ai vu des gens qui avaient des capteurs sur les bras, qui se baladaient avec des capteurs sur les bras. Et je me suis dit, bah tiens, ça tombe bien. Eux, ils seront intéressés par savoir comment on peut se servir de ces capteurs. Parce que moi, je pense que tout le monde les voit passer. Tout le monde se pose des questions dessus. Est-ce qu'il en faut? Est-ce qu'il en faut pas? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert vraiment à tout le monde? Etc. Moi, je suis totalement novice dans le truc. J'ai un peu de mal à me voir avec un truc collé sur le bras, en fait, en permanence. Mais ça, après, ça sera le sujet de la discussion. Mais je vais d'abord te laisser te présenter, en fait, en quelques mots.
Alors, en quelques mots, je m'appelle Aude Bazin. Je suis diététicienne nutritionniste. J'exerce à Reims. Auparavant, j'étais en Mayenne, dans l'ouest de la France. Et je suis aussi intervenante au CREPS. Donc, je m'occupe de sportifs amateurs, de sportifs qui aspirent au haut niveau, de sportifs de haut niveau aussi. Et dans plusieurs sports différents. Donc, je n'ai pas une expertise particulière sur un sport, mais j'essaye de voir au fur et à mesure, par rapport à l'expérience que je peux avoir sur les différents pôles, notamment au CREPS, de suivre les sportifs dans différentes disciplines.
Le CREPS, rappelons quand même que c'est multisport. Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialisations sur Reims, mais il y a moi, je sais que je suis à Vichy, on a un CREPS aussi, avec des installations, il y a des sportifs dans tous les sens. J'imagine que là, il y a beaucoup de sports qui sont représentés aussi au CREPS.
Alors, il y en a quelques-uns. Il y a un pôle France en escrime, donc des jeunes qui vraiment ont un très bon niveau. Il y a du judo, du foot, du basket, de l'athlète et du handball.
D'accord.
Ça fait une belle brochette déjà.
Tu suis tous ces sports en fait ?
Certains plus que d'autres. Et il y a certains sports qui sont plus demandeurs. C'est plutôt une question d'entraîneurs qui sont plus demandeurs d'informations diététiques pour aider les jeunes, notamment par exemple sur le foot. Parce que très souvent, les jeunes sont sollicités très tôt pour signer dans les clubs. Et donc, ils savent qu'ils doivent préserver leur santé et que l'alimentation a joué un rôle fondamental.
D'accord.
C'est l'entraînement invisible.
Ouais, c'est l'entraînement invisible. C'est vrai que y a des sports qui ont peut-être plus de sensibilité que d'autres et tout. Hein. Nous, on a eu des invités dans quasiment. Alors, je dis pas dans tous les sports, mais dans plein de sports. On se rend compte qu'il y a des sports où ils sont plus pointus que d'autres. Alors, notamment, par exemple, l'athlète, souvent, on peut. Enfin, quoique l'athlète, je sais pas, ils sont pointus, l'athlète ou pas, sur ces domaines-là. Ils sont demandeurs de choses.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, ils ne sont pas demandeurs parce qu'ils pensent qu'ils savent. Mmh. Et c'est là que je trouve ça dommage. C'est-à-dire que ma conviction profonde, c'est qu'on a tous nos croyances en matière de diététique. Et il y a des athlètes qui pensent sincèrement que ce qu'ils font, c'est formidable, alors que des professionnels, je ne parle pas que de moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, hein, mais que nous, on aurait peut-être un avis un peu plus nuancé, on leur proposerait peut-être d'autres choses pour les aider à limiter le risque de blessure. Ça me fait mal quand je vois certains meetings, que je sais comment ils vont fêter une victoire et que j'entends derrière que certains athlètes de haut niveau se blessent. Je me dis, bon, bah, c'est dommage parce qu'on pourrait en discuter, je pense.
Ah oui, ils fêtent les victoires comment? Parce que alors là, moi, ça m'intéresse, hein, cette histoire.
Bon, ils vont dans des restaurants bien connus, un peu franchisés.
Avec des M dorés dessus, des choses comme
voilà,
ça?
Voilà, voilà, qui commencent par un M et qui finissent par un O. Bon, c'est un peu dommage, je pense.
Alors, tu sais quand même que c'est une discussion que j'ai eue, et non, bon, je peux le dire avec Leïla Dapiron, on a discuté un jour, elle m'a dit, mais comment ça se fait qu'il y a tant de sportifs qui fêtent leur victoire, qui fêtent leur grosse sortie et tout, en allant manger ce genre de produits, fast-food, hamburger, frites, du gras, etc. Je sais pas si tu as un avis en tant que diététicienne, nutritionniste, si toi tu as un avis. Ou si c'est, enfin, parce que moi, je connais même des gens qui m'ont dit, oh, mais moi, après une sortie longue, si je mange pas un hamburger avec des frites et tout, je vais pas courir avant. Alors, c'est pas des sportifs de très haut niveau. Mais on l'a vu, même aux Jeux Olympiques, on a eu même des cas où, les restaurants où on a dit, bah, les sportifs ne doivent plus aller manger, on les limite en quantité, des sportifs qui mangeaient des quantités phénoménales après leur compétition. Mais pourquoi? Comment ça s'explique alors qu'on se dit, quand même, ils font attention à leur corps, ils font attention à leur santé, etc.
Alors, je pense que c'est multifactoriel. À mon avis, il y a une question de maturité par rapport à la prévention du risque de blessure. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine forme de maturité sur l'entraînement, sur toutes les contraintes qu'ils doivent faire pour se préserver, pour être en forme. Et ces contraintes, elles sont soit extérieures, soit ils les ont déjà bien intégrées, mais pas suffisamment pour se dire « Non, les efforts que je fais au quotidien sont suffisamment bénéfiques, j'en tire vraiment beaucoup de bénéfices, donc je sais que je dois manger comme ça. » Donc, c'est pas suffisamment intériorisé pour qu'ils arrivent à se dire, à l'issue d'une compétition, « Ok, là, je me fais un vrai repas de récup. » Et le McDo, à la limite, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, mais pas après une compétition, c'est ça que je trouve dommage. Et donc, je pense qu'il y a cette question de maturité. Et puis, parfois, c'est le résultat de tellement de sacrifices et ces compétitions que je comprends que psychologiquement, ils puissent avoir le sentiment qu'ils en ont besoin. Après, ça dépend des profils. Il y a aussi des sportifs qui ont un niveau exceptionnel malgré une alimentation qui n'est pas aidante. Et tant mieux, hein, la génétique, la nature les a bien aidés, c'est formidable. Et puis il y en a, ils pourront faire attention toute leur vie, avoir une alimentation incroyable, une qualité de sommeil à faire pâlir d'envie tous les insomniaques de la Terre. Ils n'auront jamais un résultat aussi bon. Et donc il y a cette injustice aussi génétique qui fait que je pense que certains ne sont pas forcément convaincus du bénéfice réel de faire attention à leur alimentation en post-effort.
Oui, mais ça, j'y crois assez, parce que c'est vrai que nous, on a reçu des invités qui ont des niveaux très élevés, exceptionnels, et puis quand on leur pose des questions sur leur alimentation, on est un petit peu surpris. Et l'autre jour, c'est une discussion que j'avais, j'étais dans un salon salon running entre les marques, etc. Mm-hmm. Et on avait quand même des remarques de personnes disant, franchement, n'importe quel athlète de trail un peu amateur, il fait plus que certains athlètes de très haut niveau. Mais vraiment avec une connaissance pointue, etc. Puis moi, je peux le dire, hein, dans les invités que j'ai eus, avec des gens qui font très attention, et à côté de ça, on a des athlètes qui courent très vite, qui sont même qui veulent faire les Jeux Olympiques, qui ont les niveaux pour faire les minima. Quand ils nous disent comment ils mangent, on dit waouh, wow, c'est quand même. Alors là, oui, je suis d'accord, il y a une injustice, ou alors il y a encore un facteur d'amélioration qui pourrait être potentiellement, on pourrait dire, tiens, ils pourraient aller encore plus loin s'ils s'occupaient de ce truc là quand même.
Ah mais complètement. Et ça, je le vois chez les athlètes qui ont un très bon niveau et qui viennent me voir parce que malgré tout, il y a un petit truc qui ne va pas. Ils voudraient atteindre le très haut niveau et on fait un bilan biologique. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui objectivement nécessitent d'être améliorées. Et là, ils sont plus enclins à faire attention à leur alimentation. Mais ça ne touche pas tout le monde. Donc oui, il y a cette injustice qui est fondamentale, et puis ça, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Mais je te rejoins parfaitement sur le fait que je vois régulièrement au bureau des gens qui me disent, voilà, je veux améliorer, je veux me lancer dans un trail 160 km, qu'est-ce que je dois faire, et qui ont déjà des très bons réflexes, plus que ceux que j'essaie de sensibiliser au quotidien en Krebs.
Bon, ça va dire que c'est l'injustice, mais bon, après on avait parlé avec Annaëlle Aubry sur les facteurs de performance en disant aussi que ils ont aussi des contraintes d'entraînement, une capacité à s'entraîner aussi qui est tout autre, que probablement ils ont compensé par d'autres facteurs hein, que nous on n'a pas su mettre en place aussi à un certain âge, à un certain niveau, qui cette capacité aussi à endurer peut-être certains efforts qu'on est tout le monde n'est pas capable de le faire. Hein,
absolument.
Voilà.
Absolument. Après. Moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est de me dire que quand on travaille l'alimentation, et notamment par rapport à ce qu'on est en train de dire, immédiatement après l'effort, l'objectif, il est bien sûr à court terme de prévenir le risque de blessure, mais aussi de se dire, tous ces sportifs, quand ils ont un très haut niveau, passé 40 ans, forcément, on sait que le niveau va baisser, c'est inéluctable, et quand ils vont arrêter leur activité, qui peut être professionnelle pour certains, dans quel état ils vont être ? Et moi, mon objectif, c'est surtout de me dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour se dire qu'on peut les aider à se maintenir dans la meilleure santé. Alors, santé, c'est peut-être, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas, dans le meilleur état de forme possible pour qu'ils continuent de se faire plaisir tout au long de leur vie.
Parce que c'est pas le cas de certains. Enfin, moi après, c'est vrai que les sportifs, un peu, qui ont arrêté, certains, on les voit un peu. Je suis un peu surpris d'ailleurs de certains quand je vois leur état physique, bien enrobé, etc. Après quelques années après leur arrêt de carrière, je suis toujours un peu surpris en me disant, mais il était sportif de haut niveau, ils ont fait ça, etc. C'est toujours étonnant, mais j'arrive pas à me rendre compte si c'est une généralité ou si la plupart sont quand même après continuent le sport, s'ils arrivent à bien vieillir, tu vois, faire des bons vieux, en fait, j'ai envie de dire.
Ah ben, il y en a qui arrivent parfaitement bien et il y en a qui arrivent beaucoup moins bien. Et c'est pas seulement une question d'alimentation, hein, évidemment, mais n'empêche que l'avantage, c'est de se dire que tiens, quand on commence à se dire bah là, j'arrive plus à faire du sport parce que j'ai trop mal les articulations, j'ai mal aux muscles, etc. Ben, quand on est contraint par ce type d'inconfort, là, on peut avoir une action avec justement ce qu'on mange au quotidien. C'est ça qui est formidable. Donc, se préserver, c'est quand même l'essentiel.
Ouais, ça serait quoi ? Enfin, alors, je ne sais pas si c'est quantifiable, mais l'apport de la partie nutrition sur la récupération, sur le fait de pouvoir maintenir l'effort au quotidien, etc. Enfin, cette alimentation du quotidien, ça représente quoi finalement dans la part d'entraînement ? Je ne sais pas si c'est quantifiable dans la part d'entraînement, dans la part de récup, mais ça apporterait combien ? On peut le quantifier ?
Alors, c'est difficile à quantifier parce que ce qui pourrait nous permettre de le quantifier, ce sont des études. Il y en a beaucoup qui existent, mais elles se contredisent. Il faudrait regarder les méta-analyses. Et en fait, généralement, quand on fait des études, on les fait sur un sujet précis. Et donc, c'est difficile de cumuler des études sur l'apport, par exemple, en jus de betterave, en bicarbonate. Enfin, tu vois, c'est, à chaque fois, c'est sur un élément extrêmement précis de la récupération qui fait que c'est très difficile à quantifier. Et puis, ça dépend aussi, encore une fois, de l'état dans lequel les gens se trouvent au départ. Donc, par rapport au patrimoine génétique, on a déjà ce biais qui fait que c'est encore plus difficile de déterminer, de dire, bon, voilà, si tu fais ça, je te promets, t'as 20% de plus de récupération. Ce serait très prétentieux de ma part de dire, de quantifier quoi que ce soit.
Mais en plus, quand on est extérieur, c'est super compliqué quand on s'intéresse au sujet. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous, les pros, parce que alors, vraiment, là-dessus, tu vois, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du collagène. En oui, disant récupération, élasticité, etc., collagène, etc. Moi, j'avoue, je prends du collagène. Je suis incapable de quantifier pour moi-même si c'est le collagène qui a amélioré telle ou telle chose. Je sais que c'est dans un lot d'efforts, dans plein de trucs que j'ai empilés les uns sur les autres.
Tout à fait.
Et j'ai vu des études, des fois, qui sortent et qui disent « Ah, le collagène, ça sert à rien ». Mais quand je regarde l'étude, je me dis « Ouais, mais ils ont mis que du collagène ». Bon. Je me dis, ils n'ont pas mis l'ajout de plus de protéines sur un truc, ils n'ont pas mis l'ajout de ça sur un truc. On ne sait pas si le mouvement a évolué, si l'entraînement a évolué, s'ils ont fait plus de ça ou plus de ça. Moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est l'étude qui est bidon ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois ? Enfin, vraiment, très honnêtement, avec mon œil extérieur, quoi.
Alors, une des questions qu'il faut se poser, c'est quand même à chaque fois, qui a financé l'étude ? L'étude, elle sert à démontrer quoi ? qu'est-ce qu'on veut vendre derrière. Et le collagène, il a montré son efficacité dans un certain nombre de domaines, mais ça n'est qu'un apport parmi d'autres. Et tu as tout à fait raison de souligner le fait que c'est multifactoriel, que ça va dépendre de la réathlétisation, du repos, de l'ensemble des nutriments qu'on va apporter, parce que qu'est-ce qui nous intéresse? Le collagène, ok, mais dans le collagène, il va y avoir la proline, l'hydroxyproline, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont agir. On n'est pas tous égaux face à ça, et en fonction des autres apports qu'on va avoir, ça va avoir un impact plus ou moins important. Donc, les études sur le collagène, elles montrent que c'est 10 grammes qui est intéressant par jour, dans certains cas. Après, on peut aussi se dire que si on fait des bouillons d'os, alors c'est pas trop la saison en ce moment, des gelées de fruits rouges pour profiter en plus des polyphénols avec de la gélatine qui contient plus de 80% de collagène. Bon, on n'aura peut-être pas les 10 grammes par jour, mais déjà, on va avoir un apport supplémentaire et c'est peut-être pas si mal déjà.
Ouais, alors le bouillon d'os, je savais, c'est aussi pour ça que je rigole toujours un petit peu pour les gens qui disent ouais le collagène ça sert à rien, je leur dis ouais mais bon, tous les plats traditionnels où il y avait des viandes qui cuisaient longtemps.
Le pot-au-feu, exactement. Voilà. Ah mais ça, c'est fabuleux.
Comme les soupes de poisson en Asie, comme tous ces plats où finalement la viande mijotait beaucoup avec les cartilages, avec tous les bouts, tous les carcasses, etc. de poisson, de viande, etc.
On ne jetait rien.
Et donc il y avait du collagène. Et il y avait aussi de la viande, et il y avait tout cet ensemble qui était déjà multifactoriel. Donc je me dis, quand même, ça, on l'avait par un biais. Et c'est vrai que maintenant, on l'a plus. Enfin, moi, j'aime pas le pot-au-feu. Alors, je dis le bouillon d'os. Alors, ma fille adore le bouillon d'os. Je sais pas pourquoi elle adore le bouillon d'os. Elle a 5 ans, elle adore le bouillon d'os. Il faut pas lui en faire trop non plus, mais elle aime bien le bouillon d'os, etc. Mais enfin, moi, j'ai toujours, tu sais, ce truc-là. Alors, par contre, la gelée de fruits rouges, ça, je savais pas du tout, tu vois.
Eh ben, en fait, la question qu'il faut se poser, à chaque fois, je me dis food first. Donc, on parle nourriture en premier. Ça ne sert à rien de se complémenter tant qu'on n'a pas une alimentation qui est nickel. Et si on cherche le collagène, finalement, on se rend compte que la gélatine, qui est si souvent décriée, on se dit « Oh non, l'agar-agar, c'est carrément mieux, etc. » Ok, soit. Mais enfin, la gélatine, c'est plus de 80% de collagène. Donc, c'est un apport qu'il ne faut pas négliger. Et on peut faire des desserts super frais en ce moment, très simples, avec des fraises, des fruits rouges, qui vont apporter en plus des antioxydants, des polyphénols. On mélange ça avec de la gélatine et ça fait un petit dessert tout à fait sympa et qui apporte un apport non négligeable en collagène.
D'accord. La gélatine des bonbons, ça ne marche pas?
Alors, non. Moins. Tout de suite, beaucoup moins.
Ah, j'essayais de faire un lien, je me suis dit en plus si ça se trouve ça peut, par rapport à notre gestion parce qu'on veut passer sur le glucose, sur le sucre et tout, après je me suis dit ça se trouve peut-être un malentendu.
Alors sur un malentendu oui mais non, parce que en fait le glucose il me dérange pas dans les bonbons, ce qui est un petit peu plus gênant c'est tout ce qui va être additif à côté.
Oui mais je croyais qu'ils les enlevaient, moi, les additifs, qu'on mettait plus que des trucs naturels maintenant à l'intérieur des bonbons.
Alors ça dépend des marques, sur certaines marques c'est vrai. Il y a des marques qui sont tout à fait acceptables. Et puis, il y en a où, quand je compte sur le paquet de bonbons, on arrive, en fonction des couleurs, à peu près 15 additifs sur le paquet. Bon, ça fait moins rêver tout de suite.
Ouais. Je rappelle que, alors, moi, c'était une blague que je faisais. Je disais, moi, je mangeais bonbons bleus parce que dedans, il y a la spiruline, enfin, la phycocyanine qui sert de colorant. Mais je pense que les doses sont tellement faibles que de toute façon, ça sert pas à grand chose. C'est ma grande excuse pour manger certains bonbons tout bleus. Bon, on va en venir quand même à ces histoires de capteurs de glucose, parce que je disais tout à l'heure, j'étais dans un, donc, forme de mini-salon, tu vois, et tout. Et à un moment donné, il y a, bon, le matin, il faisait un peu frais, et puis quelqu'un enlève sa veste, et puis d'un coup, je vois un capteur sur un bras. Alors, je sais pas, il y en a un, je l'ai reconnu. Soyons honnêtes, c'était un super sapiens, ce capteur de glucose, etc. L'autre, j'ai pas reconnu ce que c'était, enfin, il a une autre forme et tout. Et, je me suis dit, c'est quand même pas si commun que ça, d'avoir des gens qui en ont ça, mais j'ai quand même beaucoup de questions, et puis, en parlant un petit peu à droite à gauche, ben, on se rend compte qu'il y a, j'ai peut-être plus d'utilisateurs que ce que je pensais, en fait, de ces produits-là. J'arrive pas à me rendre compte. Alors, probablement, après, c'est déformé parce qu'il y a des gens, quand on vient consulter une diététicienne nutritionniste, bah, c'est qu'on est déjà avancé dans sa démarche. On est vraiment très impliqué, etc. Mais c'est commun d'avoir ces questionnements, cette démarche autour de, mesure de la glycémie, du glucose, du sucre, de comment on va gérer ça avec tout, dans son quotidien, dans son entraînement et dans sa course aussi.
Non, c'est pas encore très commun. Je pense que ça se démocratise, c'est de plus en plus connu et c'est considéré comme utile au même titre qu'aujourd'hui. Je ne vois pas un sportif sans une montre qui lui donne sa fréquence cardiaque, qui lui donne toutes les informations qui sont utiles pour créer une séance. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait, comme un outil supplémentaire. Mais concrètement, je ne le rencontre pas non plus sur tous les sportifs. Et même certains sportifs de haut niveau, ils m'ont dit « Est-ce que tu es sûr que c'est utile? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça va m'aider à performer ?» Bon, tout le monde n'est pas encore convaincu.
Alors, ce qui était intéressant quand on avait eu Bruno dedans, c'est que finalement, il avait l'impression, en fait, le sentiment qu'on a eu, et les gens, les retours que j'ai eus, c'est de dire finalement, il en a peut-être pas besoin, lui, parce que il a une carrière, ça fait tellement d'années qu'il fait attention, qu'il a une alimentation qui est très cadrée, très organisée, que il avait dit, il y a pas de grande surprise, en fait. Mais j'arrive pas à me rendre compte si finalement c'était une impression ou si c'est la réalité.
Alors, c'est une question qui est super intéressante parce que au fond, il y avait pas de grande surprise, mais ça, on peut le dire que a posteriori. C'est-à-dire que quand on a travaillé ensemble sur ce projet avec Bruno, sa grande question, c'était comment je dois me ravitailler, je ne sais pas à quel moment ça va être le plus opportun, c'est pas forcément une épreuve que je connais bien, etc. Et donc, ces questions, c'était effectivement, quand tu sors de ta zone de confort, comment tu sais que tu dois te ravitailler, parce que quand c'est trop tard qu'il faut aller là, de toute façon, c'est mort, t'as perdu trop de temps. Et donc, partant de ce principe-là, ce qu'on voulait, c'était mettre en place du sur-mesure, et c'est là que les capteurs de glucose sont super intéressants, c'est de se dire, effectivement, avec un capteur, on sait exactement à quel moment ça va être judicieux d'avoir un ravitaillement en sucre. Et avec Bruno, ce qui était fabuleux, c'est qu'effectivement, vu sa carrière, vu la façon dont il l'a menée, vu son expérience, on s'est rendu compte que, eh ben, il n'avait pas besoin de grand-chose. Mais ça, on s'en rend compte qu'après. Ouais. Et ce n'est pas forcément la lecture que j'ai avec tous les sportifs que je rencontre. Parce que toutes les courbes n'ont pas la même dynamique, la même cinétique que celle de Bruno. Et donc l'objectif à chaque fois, c'est de s'adapter en fonction de la personne qui est en face, parce qu'il y a la théorie, et je ne vais pas la remettre en cause, la théorie, il n'y a aucun souci sur le fait qu'il y a des règles de base à respecter sur les ravitaillements, et ça, bien sûr. Mais le sentiment que j'ai, c'est que plus ça va, et plus le ravitaillement apparaît comme quelque chose de complexe. Et c'est vrai parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas, il y a des choses qu'on ne digère pas, il y a des ravitaillements qui provoquent des nausées, ça ne fait rien du tout. Il y en a, on est écœuré. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a beau s'être ravitaillé, on ne tient pas les 4 heures qu'on avait décidé de faire et qu'au bout de 2 heures et demie, on n'a plus rien dans les jambes. Qu'est-ce qui se passe finalement? Et c'est là que le capteur il est intéressant. C'est qu'il nous aide à analyser l'utilité de la stratégie qu'on a mise en place. Et la remettre au centre de nos besoins à nous et pas d'une théorie qui est certes intéressante mais pas forcément adaptée à chacun.
Oui, et puis alors moi je trouve qu'en plus ce qui se complexifie c'est qu'il y a un petit peu des modes. Tout à l'heure tu parlais du jus de betterave, on nous a parlé aussi du jus de cornichon, ou l'eau de cornichon, je sais jamais comment appeler ça, en tout cas bref, ça c'est la tendance à l'américaine. On a les gels glucidiques qui arrivent, notamment dans le vélo, j'ai l'impression qu'ils sont fans de ça. Puis on a certaines marques très connues, ou en tout cas qui inondent un peu le marché avec des formules un peu particulières que certaines personnes ne supportent pas du tout d'ailleurs, et que d'autres personnes disent « c'est génial !» Et puis d'autres ne supportent pas du tout. Il y a ceux qui vont nous dire « il faut être cétogène ». Alors là, par rapport au glucose, on est vraiment dans un truc, on est encore dans un autre monde différent et tout, mais enfin... Sincèrement, tu vois, moi, en plus, je l'ai pas sous la main, mais j'ai reçu un livre il y a 2 jours sur le truc en disant on peut courir un marathon en étant cétogène, etc., total, etc. À côté de ça, on a ceux qui disent il faut prendre tant de glucides à l'heure, on parle de 80 à 100 grammes par heure et tout.
Oui. Et là, ça, tout le monde peut pas. Hein.
Voilà. Et là, t'es au milieu, tu te dis attends, comment je fais? Comment je fais pour m'y retrouver dans cette histoire? Et est-ce que justement ces systèmes avec des capteurs et tout peuvent nous aider à nous y retrouver?
Alors, pour moi, le capteur, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que la base, c'est quand même de savoir de quelle quantité de glucides on a besoin. Les glucides, c'est vraiment la croisée des chemins pour l'athlète qui fait du long ou l'ultra long. C'est-à-dire que c'est à la fois son carburant privilégié et en même temps, en trop grande quantité, ça va générer à la fois de l'inflammation et un risque d'hypoglycémie réactionnelle. Et sur du long ou plus, de toute façon, moi, mon point de vue, alors je sais qu'il n'est pas partagé, hein, j'entends bien qu'il y en a qui parlent de cétose systématique, c'est un point de vue que je ne partage pas. Je pense que ça peut être adapté dans certains cas parce que certains ont la capacité justement de courir de cette manière-là, mais pour une majorité de personnes, ce n'est pas adapté. Ça signifie qu'il faut comprendre de quelle quantité de sucre on a besoin. Mais pour le coup, je pense que les bases, c'est quand même de se dire, voilà, quand on fait du sport, on veut aussi faire attention à son poids et c'est nécessaire parce que sinon, on ne va pas être bien pour la course. Donc, il faut à la fois gérer les besoins sur des journées off pour ceux qui travaillent et les besoins en sucre, enfin en glucides de manière générale, pour les jours où il y a des entraînements. Et ça, on n'a pas besoin de capteur de glucose pour le faire. On a juste besoin de travailler sur des notions comme l'index glycémique et la charge glycémique. En revanche, quand on va commencer à travailler sur la périodisation des glucides, c'est-à-dire, tiens, les jours justement où je m'entraîne, en fonction du type d'entraînement, de quoi j'ai besoin en termes de glucides, là, les capteurs, ils peuvent commencer à avoir un intérêt. Et l'objectif du capteur, c'est d'apprendre à comprendre comment on fonctionne. C'est-à-dire que le capteur, l'idée, ce n'est pas de le garder à vie, bien évidemment, c'est d'avoir une période d'apprentissage qui peut aller de un mois, à mon avis, c'est le minimum, jusqu'à 3-4 mois en fonction des cycles d'entraînement, pour voir justement sur un plan d'entraînement pour une épreuve particulière, comment le corps s'adapte et comment on doit gérer ses efforts et sa compétition.
D'accord. Je me rappelle, on avait parlé avec Bruno de cette histoire-là, sur sa préparation. Alors, je crois, hein, si je ne me trompe pas, c'était sur l'Ambraman hein, qu'il avait fait l'expérience. Donc, pour l'Ambraman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le triathlon. Longue distance, l'un des plus durs, hein, en nage, en lac de montagne, on a une étape du Tour de France en vélo, ça monte dans tous les sens, on finit par une course qui est loin d'être plate, un marathon qui est loin d'être plat. Bruno a commencé le triathlon il n'y a pas très longtemps, donc c'est vrai que pour lui, il y a une zone d'inconnue qui était vraiment sur l'enchaînement, sur la capacité à enchaîner, sur la partie natation aussi, alors que on rappelle, il a été champion du monde quand même sur des longues distances, sur les 24 heures, sur le 100 km, 100 km de milieu qu'il a gagné et tout. Donc, je comprends aussi, parce que, tu vois, moi, je me dis, il y a peut-être des sports, en tout cas, entre les trois sports dont on parle, moi, j'ai l'impression que quand je nage, je m'épuise, tu vois, je fais 200 mètres en natation, j'ai l'impression d'être totalement épuisé, alors que la course, qui est plus mon domaine, ça va mieux. Le vélo, j'ai le sentiment que... Alors, j'ai un sentiment, que j'ai l'impression que je pourrais rouler un peu sans trop consommer, et puis à la fin, en fait, je regarde, par exemple, sur mes calories, c'est mon compteur et tout, ce qui m'annonce en consommation énergétique, et je me dis, mais c'est totalement dingue sur un vélo, ce qu'on consomme comme énergie, on s'en rend pas compte. Donc, ma sensation, tu vois, ça se trouve, en natation, j'ai l'impression de m'épuiser, mais c'est peut-être finalement juste mon cœur, tu sais, qui monte dans tous les sens. Donc, est-ce que ça, tu vois, est-ce que les capteurs peuvent m'aider à relier mes sensations par rapport à ce qui se passe réellement, tu vois?
Oui. Oui, parce que ça t'aide à mettre un mot sur la sensation. Elle signifie quoi finalement cette sensation? Parce que quand tu regardes ta montre, le vrai souci, c'est que oui, ta fréquence cardiaque, elle est réelle, quoique elle peut être un peu biaisée en fonction du type de montre, mais les calories, ça reste très théorique.
Ouais.
Alors que le capteur de glucose, il y a quand même ce capteur, il faut rappeler que c'est un petit patch qui est autocollant sur la peau, dans lequel il y a une petite aiguille, donc c'est un tout petit peu invasif quand même, qui va prendre ta glycémie et qui n'appartient qu'à toi. Donc on est quand même sûr de la fiabilité de l'information à l'instant T. Et parfois, on ne sait pas forcément reconnaître ce qui se cache derrière la sensation qu'on a. Et cette sensation, elle peut avoir plusieurs origines. Est-ce que c'est la glycémie? Est-ce que c'est un problème de neurotransmetteurs? Est-ce que tu commences à être dans ta tête, bah, le mental qui ne suit pas? Et la glycémie, bah, tout va bien, faut juste travailler un petit peu plus justement l'aspect psy. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de se dire que bah voilà, finalement, c'est rassurant. Non, je n'ai pas besoin de cet apport de sucre qui pourrait finalement me faire plus de mal que de bien potentiellement.
C'est un vrai sujet parce que tu vois, on a fait un épisode avec Florent Beaufils, où il parlait que justement il s'était entraîné pendant des années en mangeant pas assez, enfin pendant des années, pendant ses débuts de trail en mangeant pas assez, qu'il s'était rendu compte, en suivant les conseils des diététiciens nutritionnistes justement, qu'il fallait qu'il augmente sa dose de glucides. Et justement, il s'était entraîné à prendre ces fameuses doses de glucides montées à tel volume. Et on en avait parlé d'une question qui était intéressante, notamment sur la lucidité qu'on peut avoir en course, par exemple. Le fait de chuter sur un trail, de pas être très lucide dans certaines situations, etc. Et je me demande, tu vois... Enfin, parce que j'ai eu des traileuses aussi, je pense à Cici Cusso qui prend beaucoup de gadins dans les courses, je lui ai posé la question si elle savait. Et est-ce que ça, tu vois, par exemple, ce sentiment, tu vois, de pas être très lucide dans certains moments, de pas tenir debout, tu vois, de prendre des gadins, etc., ça peut être lié à la glycémie et que les capteurs pourraient aider à le régler ça?
Oui. Alors, en fait, je parlais de neurotransmetteurs. Il y a une question de lucidité qui est aussi liée au capteur, parce que concrètement, par exemple, ce qui fait qu'on est dans le dur et qu'on arrive quand même à continuer d'avancer, c'est qu'on a suffisamment de sérotonine. Globalement, quand on se dit, au moment où on se dit, oh, pff, de toute façon, mais qu'est-ce que je fous là? Je ferais mieux de rentrer chez moi, je vais lâcher l'affaire.
Tout le monde le dit sur le trail, vas-y.
C'est ça. Et ben là, typiquement, c'est que tu es en manque de sérotonine. Et la machine, enfin, le corps humain est tellement bien fait, ce qui est merveilleux, c'est que le sucre, c'est un transporteur de sérotonine. Et donc, rien que le fait d'avoir un tout petit apport, ça peut relancer justement le mental pour t'aider à continuer et à pas lâcher. Et alors, le capteur, il est suffisamment... fiable et précis pour donner ce type d'indication, mais rien que le fait de le savoir, ça peut aider.
Oui, bah, en fait, ça justifie aussi que j'avais un paquet de bonbons dans ma sacoche lors de ma dernière course de vélo. Parce qu'au bout de 12 heures de vélo, tu vois, je me suis dit, bah, tiens, j'apprécie bien mon petite dose de sucre. Et le pire, c'est que j'ai eu plein d'invités qui font du trail, etc., qui m'ont dit qu'ils se baladent avec des paquets de bonbons dans leur sac, qui sortent au bout de, en plein milieu de la nuit ou des choses comme ça. Donc, ça peut, enfin, je veux dire que ça, on a une explication à ça, que le bienfait, quoi.
Oui, alors je vais pas dire que c'est bien hein, de manger des bonbons en ravitaillement, mais en tout cas, ça s'explique. Le besoin d'avoir du sucre s'explique parce que, effectivement, ça fait remonter la sérotonine, on est mieux, et ça y est, c'est reparti, on finit la course.
C'est dingue quand même, ces trucs-là. Moi, tu vois, ça me donne une excuse pour manger des bonbons. Non, mais... Quelqu'un me l'avait dit, en fait, quelqu'un qui fait de l'entraînement en ultra, en ultra vélo, m'avait dit, moi, je pars jamais sans un paquet de bonbons et tout. Et j'avais rigolé quand même. J'ai dit, j'en prends un dans mon sac. Mais c'est vrai que je l'ai bien apprécié. Et j'avais repensé à certains invités qu'on a eus et que j'ai eu dans mes différents podcasts qui m'en avaient parlé de cette histoire-là. Ben, tu vois, maintenant, j'ai une explication sur ces histoires-là. Mais tu vois, ça, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas besoin de capteur de glucose dans le bras pour le savoir que j'ai besoin de ça, en fait.
Alors. Pour savoir que tu as besoin de ça, non, tu n'as pas besoin de capteur de glucose. Le capteur de glucose, tu en as besoin si tu fais une épreuve qui est suffisamment longue, sur laquelle tu n'es pas sûr des ravitaillements que tu vas prendre, que tu as peur de l'hypoglycémie, que quand tu fais une épreuve que tu n'as jamais faite, qui est suffisamment longue, et que tu ne vas pas faire l'épreuve avant l'épreuve, histoire de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Là, le capteur de glucose, il est intéressant. Je ne vais pas conseiller un capteur de glucose à quelqu'un qui va préparer un 10 ou un 10 km, un semi-marathon. Ça, pour moi, ça n'a pas un intérêt fulgurant. Je pense qu'on peut faire ça. On peut s'en passer. À partir du marathon, encore plus si le marathon, c'est une épreuve préparatoire à un trail, un raid ou quoi que ce soit, là, ça peut commencer à devenir intéressant. Si tu te dis, bah tiens, je prépare l'étape du tour, je sais que je vais avoir 4000 mètres de dénivelé positif, que je vais avoir 200 km, là, oui, c'est intéressant. Parce que Là encore, la période d'apprentissage, elle se fait pour le jour J, c'est vrai, mais elle se fait aussi tout le long de la préparation. On sait tous que quand on prépare ce type d'épreuve, on en a pour un plan d'entraînement de 3-4 mois, je ne vais pas dire d'assaise, mais si on est suffisamment sérieux et qu'on veut le faire dans de bonnes conditions, ça nécessite quand même un certain nombre d'efforts au quotidien, notamment vis-à-vis de l'entraînement. Quand on ne veut pas être cramé derrière, parce qu'il faut bosser, il faut garder sa vie de famille, on a une vie, on a tout intérêt à faire en sorte de bien gérer sa glycémie, parce que la glycémie, c'est quand même la base de notre état de forme au quotidien. Et c'est là qu'effectivement, on se dit que le ravitaillement, il a toute son importance. Et pour qu'il soit optimal, on peut faire confiance à ses sensations. Je n'irai pas obliger quelqu'un à prendre un capteur de glucose. Mais si les sensations ne suffisent pas et qu'on voit que très régulièrement, on n'est pas bien, qu'on n'arrive pas à trouver le produit qui convient bien pour les ravitaillements, dans ce cas-là, ça peut être utile.
Et on parle bien pour les ravitaillements, mais aussi on parle bien pour en entraînement, pour avoir de l'énergie tout au long de la période d'entraînement, pour ne pas se blesser, pour être de bonne humeur aussi avec sa famille, j'ai envie de dire, enfin toutes ces choses-là, quoi.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Pour avoir une vie qui soit sereine pendant la période d'entraînement, avant la préparation d'une épreuve.
Donc, bien sûr, là, tous ceux qui sont en train de préparer des ultras en trail, en vélo, il y a toute forme de trucs qui durent très longtemps, hein, j'ai envie de dire.
toutes les semaines.
C'est vrai, on invente que des trucs qui durent de plus en plus longtemps. Alors, on avait parlé avec Denis Richer, d'ailleurs, en disant que c'était un signe de quelque chose, cette histoire-là. Il avait développé en tout cas toute une logique autour de ça. Mais c'est vrai que, entre le triathlon, entre la course, entre l'alpinisme, entre toutes les épreuves, le vélo et tout, il y a des trucs qui durent de plus en plus longtemps, hein. C'est vrai dans cette histoire-là. Qu'on se demande comment c'est gérable. D'ailleurs, même il y a des trucs où on se dit c'est pas gérable, puis jusqu'au jour, on se retrouve à s'entraîner pour le faire. Et on se rend compte que finalement c'est peut-être plus gérable que ce qu'on pensait avec une période avec de l'entraînement, avec de la connaissance de soi et tout. Et c'est vrai que je vois bien l'histoire de se dire, parce que c'est vrai que quelqu'un qui prépare l'UTMB, il peut pas faire un UTMB avant pour répéter son UTMB, quoi. Donc forcément il va être dans une zone totalement inconnue, et même s'il a fait d'autres trails, même de distances qui peuvent être comparables, entre le dénivelé, les conditions et tout, il y a forcément à un moment donné, il faut que l'apprentissage de ce qu'il est. Puis c'est une question de rassurance aussi, de se dire, je prends le départ en sachant ce que je fais, quoi.
Oui, absolument. Je pense que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que psychologiquement, ça fait un confort supplémentaire de se dire, ouais, j'ai un outil qui peut m'aider à gérer correctement et je ne dépends pas que de mes sensations sur lesquelles, en plus, je ne suis pas convaincue d'avoir la lucidité de bien les lire, les comprendre, parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, est-ce que vraiment je peux me fier à ce que je ressens ? Ce n'est pas forcément certain.
D'accord. Donc, ça veut dire que le capteur, en fait, on va s'en servir aussi pendant l'épreuve ?
Oui, absolument. On s'en sert pendant. Parce que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le capteur, il est relié à une application qui donne la glycémie minute par minute. Évidemment, quand on est dans l'épreuve ou dans l'effort, on ne regarde pas son téléphone en courant ou en pédalant. Mais on peut avoir un bracelet qui donne... justement, qui prend le relais et qui donne sur des très longues distances la glycémie. Et donc, il suffit de jeter un œil à son bracelet pour voir où on en est. Et c'est le bracelet qui donne le signal au moment où c'est nécessaire de faire le ravitaillement. Donc oui, c'est utile pendant.
Ouais, c'est comme une sorte de voyant, en fait. C'est comme si on se rajoutait une petite loupiote en disant « Attention, là, on a une réserve de glycémie qui est pas terrible, quoi. »
C'est exactement ça. Là, il faut passer à la station-service, là.
Mais alors la question que j'ai, et peut-être que tu vois, ils vont se dire, ça va le donner, ça anticipe un petit peu ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment des niveaux, on peut régler en disant quand on arrive à un certain niveau, on va commencer à prévenir pour pas tomber, tu vois, parce que notre essence dans la voiture, ça bip quand on rentre dans la réserve, quoi. Et on a ce système de réserve là sur les bracelets, sur les alertes.
Alors en fait, t'as pas d'alerte. Ce qui se passe, c'est que t'as simplement ta glycémie. Et je parlais tout à l'heure de phase d'apprentissage de quelques semaines. C'est que pendant la phase d'apprentissage, le capteur, tu le portes H24. Donc le capteur, de toute façon, il te donne H24 ta glycémie. Donc tu sais ce qui se passe quand tu dors, quand tu manges, une fois que t'as mangé, quand tu t'entraînes, quand t'as un stress. Tu sais ce qui se passe. Et ce qui va être intéressant, c'est de te dire que toi, quand tu regardes, une fois que tu as compris comment tu fonctionnais, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs d'objectifs, une fois que tu atteins cette valeur-là, cette valeur seuil, Eh bien, dans ce type de profil d'épreuve, tu sais que si ça va continuer à descendre, là, il est temps que tu te resucres.
D'accord. Donc, c'est vraiment là où l'apprentissage. Et moi, j'ai envie de dire, tu vois, je me vois pas, moi, tu vois, acheter un truc comme ça, enfin, l'acheter, m'abonner, etc. Parce que je me dis, je sais pas quoi en faire, en fait. Tu vois, ça veut dire qu'il faut vraiment être accompagné pour savoir quoi en faire.
Alors, moi, je travaille principalement avec Super Sapiens parce que c'est pratique pour moi, que je ne dis rien de mal sur les autres, c'est juste parce que eux, je les connais mieux et que je ne peux pas non plus en avoir 15 marques dans le bureau. Mais ce que je trouve intéressant avec eux, c'est que sur l'appli, tu as quand même pas mal de tutos, de conseils pour apprendre à gérer. Après, je trouve malgré tout que c'est intéressant qu'on voit aussi en consultation pour faire des ajustements en fonction de ce qu'on arrive à lire sur les capteurs, justement. Parce que le capteur, pour le capteur, bon voilà, ma glycémie elle est à temps, ça me fait une belle jambe. Super, effectivement. Qu'est-ce que j'en fais de l'information? Ben justement, moi, une fois que j'ai l'information, je peux expliquer à la personne, bah tiens, là, on voit justement que la glycémie, elle monte trop haut. Qu'est-ce que tu as mangé? À quel moment tu l'as mangé? Tu vois, tu réagis mal à tel type de glucides. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'on réalise que des glucides que sur papier, je donnerais les yeux fermés à tout sportif qui se respecte, eh bien, il y a des personnes qui réagissent plutôt mal, parce que ça fait monter leur glycémie tellement haut que ça les met direct en inflammation. Et derrière, que ça redescend aussi sec. Donc ça ne leur convient pas. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il faut le retirer de leur alimentation, mais que voilà, ça fait partie de l'alimentation de plaisir, ce n'est pas un souci, mais on ne peut pas compter sur cet aliment-là pour être une source de restauration des réserves en glucides pendant une épreuve ou pendant un entraînement. Donc l'idée, c'est aussi de comprendre justement comment on fonctionne au quotidien.
D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment bon, le fameux journal alimentaire que tout le monde devrait avoir dans un coin pour noter au moins un petit peu comment on réagit est vraiment important, parce que se dire bah là maintenant faut que je sois capable de relier ce fameux chiffre, ces fameux pics, ces descentes, etc. par rapport à ce que j'ai mangé, par rapport à ce que j'ai fait, mon activité, etc. quoi.
Alors en fait il y a deux choses. C'est que la courbe de la glycémie qui s'affiche sur l'application, elle va donner donc seulement une seule information, c'est la glycémie. Mais la glycémie, elle va dépendre principalement de ce que tu manges, de l'activité physique que tu as et du stress que tu as. Donc, l'appli, elle te donne l'opportunité de créer des événements.
D'accord.
Donc, tu peux avoir un coup de stress qui fait monter ta glycémie, hop, tu le notes, c'est tout sur l'appli. Et quand tu manges, sur l'appli, tu peux aussi noter ce que tu manges. Moi, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est de constater que, en fonction de l'ordre dans lequel tu manges les aliments, dans un repas, la glycémie monte plus ou moins.
D'accord.
C'est-à-dire que tu vas faire un repas super classique, poisson, riz, épinards.
Ouais.
Les quantités sur deux repas, les quantités exactement les mêmes. Selon que tu changes l'ordre que tu manges les légumes, la viande, enfin le poisson en l'occurrence, et les féculents, ou féculents et ensuite l'accompagnement, bah, la glycémie, elle ne va pas réagir de la même manière. Et ça permet aussi d'ajuster en fonction des exigences qui suivent le repas.
Cette histoire d'évolution, c'est pour tout le monde pareil ou c'est chacun pour agir différemment s'il inverse l'ordre des aliments?
Alors non, on sait que c'est pas très spécifique, c'est-à-dire qu'on réagit tous à peu près de la même manière et que globalement, si on commence par les légumes, une petite entrée, et si en plus on a mis une vinaigrette dans laquelle, maison hein, évidemment, hein, on a mis un petit peu de vinaigre.
Bien entendu.
Évidemment. Et ben ça agit et la glycémie, elle monte moins haut et moins vite.
Ouais. Non, parce que si je pose la question, c'est parce que bon, tout le monde voit passer les contenus de Jessie Inchospé, de Glucose Goddess, etc., de tous ces trucs-là, où on voit les courbes qui montent, etc. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut généraliser, hein, ce genre de choses, ou est-ce que vraiment il peut y avoir des spécificités? Mais c'est vrai que cette histoire, puis on l'a eu, hein, j'ai eu plein d'invités qui disent toujours de manger, commencez par manger des crudités, notamment, des choses comme ça. Ça a un impact, les crudités, sur comment la glycémie va monter ou pas?
Ah ben oui, tout à fait. grâce aux fibres qui sont à l'intérieur. Mmh. Donc oui, les crudités, les légumes de manière générale, les crudités encore plus, et en fonction de ce qu'on met dans la crudité, effectivement encore plus. Après, ce qui va moduler la réponse, c'est l'état de santé de la personne. C'est-à-dire que, ben, par exemple, j'ai un patient qui est en prédiabète de type 2, qui a des capteurs de glucose, ben, lui, on a un petit peu plus de mal à stabiliser. Et en fonction du type d'effort qu'il fait, on sait qu'il faut changer certains paramètres. Mais de manière générale, malgré tout, on retrouve quand même des similitudes dans le mode de comportement de la glycémie de la plupart des gens.
D'accord. Moi, j'ai carrément eu des invités qui, eux, étaient diabétiques, hein, carrément, qui font prépa de l'Ironman, etc. et tout, et qui, pour eux, le capteur, c'est vraiment un outil qu'ils utilisent au quotidien. Alors, pas forcément qu'est Super Sapiens, il y en a d'autres, etc., qui ont des objectifs médicaux et tout, qui eux, par contre, connaissent très bien leur taux. C'est-à-dire que moi, j'ai les commentaires, je pense notamment à Alain, qui me dit « Ouh là là, quand il annonce ça et tout, il dit « Bah moi, quand je suis à ces niveaux-là, c'est vraiment, je suis HS, ça va plus du tout, je dois agir, etc. » qui ont une connaissance. Et c'est vrai que c'était un peu la conclusion qu'on avait eue sur certains épisodes en disant que ils avaient une connaissance qui était très intéressante, qui les amenait aussi à manger, à savoir ce qu'il fallait manger, peut-être faire plus attention, logiquement de faire plus attention, etc. aussi. Et que ces outils-là, permettaient aussi de mieux connaître et de faire vraiment attention parce que, là, on parle d'abandon qui est encore plus rapide, de problèmes de santé qui sont plus rapides.
Oui. Et, en fait, ces personnes-là, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que ce sont des personnes qui sont tellement impliquées qu'elles ont une véritable expertise de leur corps et de la manière dont elles réagissent. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'à ce moment-là, moi, je leur donne les outils que j'ai et puis on fait matcher les deux et tout de suite, on voit qu'on a un résultat qui est vraiment super intéressant parce qu'ils ont besoin finalement de peu d'informations. Ils savent tout de suite les utiliser en fonction de la façon dont ils savent qu'ils vont réagir.
Ah oui, parce que eux, par exemple, moi, je pense à Alain, je pense à Jean-Philippe, par exemple, qui lui connaît ses taux, mais par cœur. C'est-à-dire que tous les taux, il les connaît par cœur. Quand il entend les taux, quand il entend ce que fait telle ou telle personne, lui, il sait exactement ce qui se passe dans son corps, comment il va réagir, comment il va se comporter, etc. Qui a une vraie connaissance, alors qui est un peu forcée de par son expérience, etc., mais qui, où je constate effectivement que cette connaissance-là, moi, où j'ai une totale méconnaissance, où je suis incapable même de te dire le chiffre, un chiffre ou quoi que ce soit, puis j'ai entendu des coachs qui disent « Moi, j'ai un capteur glycémie à la maison, je m'en suis servi une fois et je sais pas quoi faire du chiffre. » Eux, à l'inverse, ils ont une connaissance qui est vraiment extrêmement pointue, quoi.
Oui, tout à fait. Mais ça, justement, c'est quelque chose qui s'apprend dans les périodes. Ce qu'il faut, c'est comprendre sur les 15 premiers jours où se situe la zone, on va dire, d'activité classique. Et puis ensuite, on apprend à gérer la zone de performance qui, elle, est liée justement aux glycémies qu'on doit avoir pendant l'effort. Et après, ça permet d'ajuster les quantités et les types de glucides qu'on va prendre avant un entraînement. Tiens, je réalise que moi, si je mange des sushis, par exemple, j'ai intérêt à vouloir faire du très long derrière parce que ma glycémie, elle monte super haut et puis elle reste très longtemps très haute.
Ah oui, ça peut être ça l'impact d'un sushi. Oh bon. Je me disais, par exemple, je le pense, tu vois, comme ça, par exemple, des personnes qui auraient du mal à savoir ce qu'ils doivent prendre au petit déjeuner le matin avant les courses, etc., parce que c'est souvent des questions qu'on a, et quoi prendre avant. Combien de fois je me suis posé la question avant une course de dire, mais qu'est-ce que je dois manger au petit déjeuner? Est-ce que je dois prendre ça, etc.? Ces genres d'outils, ça permettrait de faire des tests, de répondre un petit peu à ce genre de questions?
Alors, oui, ça permet de répondre partiellement. Je suis convaincue d'une chose, c'est que le petit déjeuner idéal, il n'existe pas. Il doit être propre à chacun. Ça ne sert à rien de se forcer à manger quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger ou qu'on n'aime pas ou qui ne va pas passer si on n'est pas pour ce genre de truc. Ça ne passera pas plus. Je pense que les adaptations, elles doivent être minimales par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Elles doivent être minimales et utiles surtout. Après, il ne faut pas oublier que le jour de la course, pour le commun des mortels, généralement, il y a quand même du stress qui va bouffer une partie des réserves de glycogène. Et ça, il faut les compenser, mais il faut le prendre en compte. Parce que le stress va générer un pic de cortisol et le cortisol va faire monter la glycémie. Donc quand on a une glycémie qui monte le matin alors qu'on n'a encore rien mangé, c'est pas parce qu'on a mangé quelque chose, hein, c'est parce qu'on est en stress. Donc ça, il faut savoir le lire aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand je dis d'avoir 2 ou 3 mois d'essai, c'est que quand on a 2 ou 3 mois, on a fait des courses préparatoires, ouais. On a fait des courses intermédiaires et on a eu ces pics de stress et on sait, parce qu'on a justement expérimenté, on sait ce qui se passe à ce moment-là et on voit si c'était suffisant ou pas, du coup, le petit déjeuner.
Ouais.
Après, évidemment, il y a les règles de digestibilité qu'on connaît tous et qui font qu'on sait qu'on ne va pas se jeter sur... pain et confiture juste avant une épreuve.
Ah bon? Non, parce que je dis le ah bon, il est un petit peu comme ça, mais c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui se jettent sur pain et confiture avant une épreuve. Bon, ça dépend de l'épreuve aussi, parce que comme on le dit, hein, les règles sur un 5, un 10 ou un semi-marathon, un marathon, un ultra, c'est pas du tout les mêmes. On a des stratégies qui sont totalement différentes aussi. Hein.
Les stratégies sont différentes. Après, je caricaturais sur pain confiture parce que la plupart du temps, ce que j'entends, c'est quand même café, pain, beurre, confiture. Et puis tiens, le jour de la course, on retire le beurre parce que c'est du gras et que c'est pas terrible. Donc,
Ah ouais.
Ouais. Mais pour expliquer un petit peu, pain confiture, par rapport aux règles de base dont je parlais tout à l'heure, à savoir l'index glycémique et la charge glycémique, on se retrouve vite avec, si on prend une baguette classique, un petit déjeuner qui a une charge glycémique au plafond, ce qui risque de nous faire partir en hypoglycémie réactionnelle avec rien dans les jambes au moment du départ. Donc ça, c'est le plus gros risque. Après, bien évidemment, c'est à moduler en fonction, comme tu le disais, du type d'épreuve. Mais ça reste néanmoins pas un petit déjeuner que je conseillerais, même pour le quotidien.
Non, mais moi non plus, je conseille pas pour le quotidien, etc. Moi, je retarde le plus possible la prise de sucre dans ma journée. Donc là-dessus, je dis en blaguant et sans blaguer, parce que je pense que des fois, avant les courses, on rentre un peu dans une phase un peu, pas irrationnelle, mais se dire... Ah, quand même, j'ai vu que lui faisait ça, que je vais prendre ça, il y a le stress et tout qui va se rajouter. Et si tu vois demain, qu'il y a une journée, parce que j'ai vu ça dans un podcast où il dit, avant une sortie, il mange une grosse tartine de Nutella. Je vais être tenté, tu sais, de me dire, mais ça se trouve, ça peut peut-être marcher son histoire, alors que, j'ai regardé ce matin, il y a 56 grammes de sucre, il y a 56% de sucre dans, ou 36 ou 40, 56%, je crois, dans un truc, dans une cuillère de Nutella. Enfin, c'est juste énorme. Là, je me dis, le capteur de glycémie, il va dire, attends, qu'est-ce que tu fous, mon gars, là? Je suis en PLS. Mais si ça se trouve, après, bon, de toute façon, Kian Jornet est inimitable, je veux dire, là-dessus. Mais je veux dire, on est toujours un peu dans l'irrationnel. C'est-à-dire que on se dit, ouais, mais attends, la solution de lui, c'est un peu l'objet brillant, quoi. C'est-à-dire que ce que lui l'a fait, on serait tenté d'aller le répliquer. Sans se rendre compte que finalement, il y a aussi d'autres facteurs qui font que lui peut l'appliquer et que nous, ça, on serait HS, quoi.
En fait, il faut absolument sortir de la pensée magique et rester sur son expérience, ne pas vouloir être quelqu'un d'autre que soi-même. Et au fond, au même titre qu'on sait qu'on va faire telle performance, ou en tout cas on le souhaite, et c'est ça qui est envisageable parce que réaliste, et bien de la même manière qu'on n'envisage pas nécessairement de faire le même podium que Kylian Jornet, il faut se dire que l'alimentation doit être adaptée en fonction des contraintes de chacun. Que ce soit, bah ouais, moi j'ai les intestins fragiles, ou ah bah non, ça je supporte pas. Et à ce moment-là, vraiment avoir une approche sur laquelle on se trouve le plus confortable possible. Avec un capteur de glucose ou pas.
Ouais, et en plus, alors il y a des choses qu'on peut rendre confortables, je veux dire. Tout à l'heure, on disait prendre 60 grammes, 80 grammes ou 100 grammes de glucides à l'heure, comme certains le conseillent. Moi, j'ai eu en cyclisme, j'ai eu ce conseil-là et tout, et puis on en parlait tout à l'heure. Ça me rappelle toujours l'épisode que j'avais fait avec Mathieu Blanchard qui, pour préparer les courses, lui s'entraîne à manger beaucoup, à prendre beaucoup de glucides justement, mais à l'entraînement. Je veux dire que c'est une manière de rendre confortable ces fameuses doses dont il aura besoin en course.
Bah, c'est du gut training, hein. Donc c'est-à-dire que c'est un terme qui dit que globalement on n'est pas fait pour supporter plus de 60 grammes de glucides par heure, hein. On ne sait pas oxyder plus que 60 grammes de sucre par heure, donc ça ne sert à rien d'en prendre plus, mais on peut habituer au fur et à mesure l'organisme à supporter plus. Et il y a des plans pour apprendre justement à supporter. Et ça ne se fait pas, effectivement, on ne se dit pas le jour de la course, tiens, aujourd'hui, je surdose ma boisson en effort, je me mets 90 grammes et je suis sûre que ça va coller. Non, ça ne matche pas généralement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais sur une phase d'apprentissage, si à côté de ça, on sait prendre suffisamment soin de son intestin, parce que plus de glucides, ça veut aussi dire que bah, ça fragilise un petit peu l'intestin, à ce moment-là, c'est tout à fait envisageable d'augmenter effectivement les quantités de glucides. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas forcément de façon très linéaire. Tiens, je fais une semaine comme ça et puis au fur et à mesure, j'augmente. C'est différent pour chacun. Il faut vraiment s'écouter.
Ouais, donc c'est quand je dis qu'on n'est pas des machines, moi je dis toujours qu'on n'est pas des machines. Et les gens disent oui, le corps est une formidable machine, mais enfin une machine qui s'améliore au fur et à mesure. Donc on n'est pas vraiment des machines et on régit pas tous de la même manière. On a vraiment des réactions. C'est intéressant cette notion de stress aussi parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la notion qui ont. Enfin, tu vois, moi, le lien entre stress, glycémie qui pouvait bouger comme ça, etc. J'avais pas ce lien-là. C'est vrai que je vois bien le stress avant course. Tu vois, alors le stress avant course, je voyais vraiment de manière digestive. Pipi de la peur, besoin d'aller aux toilettes, mal de ventre, etc. Et puis, alors, je le dis parce que sur Instagram, j'ai fait un réel sur le sujet. C'est un réel qui a fait 240 000 vues.
Ah ouais.
Ouais, sur. Alors là, le truc, tu commences à parler de pipi caca dans la course à pied. Bam, tout le monde a ses cas, ses problématiques, ses exemples, etc. Parce que c'est une vraie problématique. Mais c'est vrai que le stress, je l'avais pas vu. Et pourtant, et dans nos vies personnelles, en plus, on a des stress qui peuvent venir de plein de facteurs. Mais moi, je me rappelle avant mon marathon, j'ai ma fille qui faisait pas sa nuit, qui voulait pas dormir, qui a pas voulu faire la sieste la veille, etc. Le stress de pas être dans la même ville, le stress de dire je vais louper le départ. J'ai eu des invités qui ont loupé le départ des courses, hein, des fois. Le stress de dire je vais pas trouver le bon lieu. Est-ce que j'ai mes bonnes épingles?
Oui, oui, tout à fait. C'est démultiplié le jour de la course.
Ouais. Et je me dis, en plus, donc là, on peut tester ça à la limite sur des petites courses, c'est-à-dire qu'on peut tranquilliser un petit peu avec des routines pré-courses, etc., qu'on voit en préparation mentale, qu'on peut avoir en disant, bah, je prépare tout la veille, les respacts sont tout préparés, je sais que j'ai plus qu'à me lever, mon petit déjeuner, je sais que à peu près je vais réagir comme ça. Mm-hmm. Mais je me dis quand même, tu vois, si par exemple, demain, imaginons, idée folle, mais non, je le ferai pas. Je prépare l'UTMB, tu vois, je me dis, allez, je vais faire l'UTMB. Je me dis, c'est grand objectif, ça fait genre 2 ans que je prépare ça. Je me dis quand même, le stress, il va être dur à imaginer le niveau de stress que j'aurai au moment de cette course-là, parce que c'est quand même un truc que j'ai préparé, tu vois, qui a une charge mentale, etc., qui est beaucoup plus lourde que même une course de préparation.
Tout à fait. Et du coup, c'est vrai aussi que la glycémie, on ne peut pas savoir de quelle manière elle va changer. Est-ce qu'elle va vraiment beaucoup changer par rapport à un stress qui n'est pas habituel? Et on sait que généralement, quand on stresse, ça donne telle glycémie. Ça, c'est dans ce sens-là que tu me dis ça, c'est ça?
Ouais.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai tendance à penser que sur des préparations de grosses épreuves, c'est super important d'avoir une approche micronutritionnelle et de préparer du coup son corps à essayer de temporiser ce stress. Parce que le stress, il va avoir plein d'impacts. Il va avoir un impact très court terme sur la glycémie, comme on l'a vu, par rapport au cortisol. Et puis, le cortisol, il va aussi déminéraliser l'organisme. Il va provoquer une fuite de minéraux, au premier rang desquels le calcium et le magnésium. Alors le calcium, je ne dirais pas qu'on s'en fiche, mais généralement, on n'est pas trop en déficit. En revanche, le magnésium, c'est un vrai souci. Et ça peut être tout à fait utile de se dire, bah, tiens, dans les jours, les semaines qui précèdent une grosse compétition, on fait une cure de magnésium biodisponible sous forme de bisglycinate qui permet d'anticiper et de minimiser les effets du stress le jour de la course.
C'est intéressant tout ça. Bon, bah, de toute façon, ça justifie le fait que j'ai ma petite fiole de magnésium juste à côté de moi et que j'en prends tous les jours.
Très bien.
Non, mais c'est vrai. Après, il y a des trucs sur lesquels, après, c'est vrai qu'on apprend plein de choses parce qu'on a fait plein d'épisodes, on a appris plein de choses, etc. Et aujourd'hui, j'ai appris encore plein de choses, etc. Et j'espère que tout le monde a appris autant de choses que moi parce que c'est vrai que c'est passionnant de se rendre compte finalement à quel point nous sommes des organismes multifactoriels, qu'il y a plein d'éléments qui peuvent agir sur nous, que c'est difficile, etc., de prévoir. Et on parle du stress, mais on a de stress nous, mais on n'est même pas des champions, c'est même pas notre métier, je veux dire, de faire ça. Donc c'est on se met des grosses doses de stress, etc. Bon, après, quand je pense à stress, je pense aussi à ceux qui travaillent, qui doivent se dire, bah, des fois, mon capteur de glucose, quand je vais au boulot, il doit aussi mesurer des grosses périodes de stress, potentiellement, hein, sur, quand on l'a pendant 24 heures sur 24. J'imagine aussi que ça, quand tu vois arriver des gens qui viennent consulter, il y a des moments où tu vas dire, oulala, il a dû se passer un truc au bureau, là, ou il a dû se passer un truc en famille, non?
Oui. Alors ça, je le vois. Je le vois chez les personnes. Alors c'est intéressant, même si ça me fait un peu plus de peine aussi, et parfois un peu peur d'ailleurs pour l'état de santé de certaines personnes. Mais j'en vois qui ont des stress a priori inexpliqués la nuit, parce qu'ils me disent je dors. Alors j'ai pas un sommeil de bonne qualité, mais je dors. Et quand on gratte un petit peu, qu'on discute, on se rend compte que oui, derrière ce sommeil qui est de mauvaise qualité, et ben il y a beaucoup de stress au travail et des personnes qui sont parfois déjà en pré-burnout. Donc je dirais pas que c'est un outil diagnostique, hein, ça j'irai pas jusque là, mais c'est quand même intéressant de se dire tiens, posez-vous la question, peut-être que ça vaudrait le coup d'en parler avec un médecin, de faire un bilan pour voir si il y aurait pas quelque chose à faire pour pallier un éventuel problème de santé qui pourrait survenir plus tard. Parce que sur du long ou l'ultra long, ce que je constate, c'est que c'est aussi parfois un palliatif pour une vie qui est un peu compliquée. Et je le conçois, hein, sa ressource de faire du sport, c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier que le sport, et surtout justement ce type d'épreuve longue ou très longue, ça va aussi solliciter énormément l'organisme. Et quand on est déjà carencé pour un certain nombre de raisons qui ne dépendent pas que de l'alimentation, mais le stress est vraiment fondamental, eh bien le sport à la fois sa ressource, mais ça continue de puiser différemment dans les réserves. Donc il faut vraiment faire attention, à mon avis, à bien se protéger.
Ouais. Et là, je renverrai tous ceux qui sont intéressés par le sujet sur les épisodes qu'on a fait sur le RDS, sur les épuisements, sur toutes ces formes-là, parce que
absolument. On
le voit beaucoup dans l'ultra-endurance. On l'a encore abordé avec Flo, parce que l'épisode, j'ai enregistré hier, hein, pour tout dire, donc dans la diffusion, on a un petit peu de décalage, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même, et en parlant autour de nous, qu'il y a quand même beaucoup de gens dans l'ultra-endurance, dans toutes les formes d'ultra-endurance, qui ont quand même des formes d'épuisement par moment, qui ressentent des grosses fatigues, mais dans le quotidien de la journée, hein, finalement, qui n'ont pas mis le mot sur RDS, qui n'ont pas mis ce mot sur l'épuisement, qui n'ont peut-être pas tous les signes, hein,
oui,
notamment avec les fractures de fatigue, etc.
Mais ils ont peut-être envie de le voir aussi.
Ouais. Mais qu'on aussi l'épuisement quand même, qu'on aussi un petit peu le côté un peu dépressif, un petit peu d'avoir du mal à s'ouvrir sur des trucs, etc., qui sont des signes précurseurs, qui des fois ça s'arrête juste avant les blessures, avant les fractures de fatigue, avant toutes ces choses-là, mais que c'est vrai que c'est vraiment y prendre soin. Et tu vois, moi j'avais pas vu finalement le lien entre stress, glucose, tous ces trucs-là, de voir comment tout ça est relié. Mais finalement, je te remercie de nous avoir aussi montré cette utilisation. C'est pas un outil diagnostique, mais finalement, c'est un outil qui peut donner corroborer des signes.
C'est ça, complètement. Corroborer des signes pour se dire, là, j'ai suffisamment de signes pour dire, peut-être qu'il faut dire stop. Et finalement, stop, je crois que c'est la chose la plus compliquée pour quelqu'un qui est passionné et qui fait du long, parce que c'est difficile à entendre. Et pourtant, de la même manière que tous les compléments du monde ne feront rien contre un RDS, une grosse fatigue, il y a des moments où c'est nécessaire pour pouvoir mieux repartir et pas fermer toutes les portes définitivement, parce qu'on peut s'abîmer vraiment de façon importante, de savoir dire stop et parfois de renoncer à certaines courses. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux pour plein de raisons, et se dire bah, je serai plus fort l'année prochaine, mais cette année je prends soin de moi autrement.
Ça peut être facile quand même quand tu as quelqu'un qui est très impliqué, qui vient consulter comme ça et qui se rend compte de ça.
Oui, je te confirme, c'est pas facile, et j'ai un exemple en tête. C'est pas facile, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que de toute façon, à un moment, le corps dit stop. Si on ne l'écoute pas, il nous donne des signes régulièrement et qu'on ne veut pas forcément écouter. Mais si on le fait, on a beaucoup plus de chances de continuer à progresser dans sa pratique, dans sa passion, et sans se blesser surtout, parce que c'est ça le plus important. Je crois que la blessure, pour quelqu'un qui est très impliqué, qui est passionné, c'est ça le plus dur, parce que c'est un sport qui ressource, c'est un sport qui fait un bien fou à la fois pour le corps et pour l'esprit, et ne plus pouvoir le faire, c'est aussi se couper de cette forme d'épanouissement Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir parfois mettre les freins et de savoir anticiper quand on écoute bien et de se dire bah, peut-être que finalement, je vais choisir une distance un peu plus courte. Parce qu'on n'est pas obligé de dire stop à tout. Hein. On peut aussi tout simplement revoir ses ambitions à la baisse parfois.
Oui, tout à fait. J'ai une dernière question subsidiaire, mais est-ce que cette gestion du glucose par le corps évolue avec l'âge?
Alors, c'est une très bonne question. J'ai tendance à dire oui, mais je n'ai pas suffisamment de recul parce que ça fait que deux ans que je travaille avec des capteurs de glucose. Après, sur les athlètes que je suis depuis quelques années, je pense que oui, effectivement, ça évolue avec le temps, certainement avec l'expérience aussi. Si je reprends par exemple les courbes de Bruno qu'on a vues, je pense que l'expérience elle est fondamentale pour l'évolution, mais une fois encore je ne sais pas par rapport à Bruno par exemple ce qui relève de l'expérience et ce qui relève de la génétique et des capacités intrinsèques. Donc je trouve que c'est difficile de répondre à cette question.
Ouais,
en tout cas pour moi.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis c'est ce qui ressortait de l'épisode avec Bruno aussi, c'était de dire, quand il parle de son alimentation, de ses habitudes, etc., qui sont déjà tellement saines, je veux dire, pour tourner vers l'équilibre de vie, de la performance globale, etc., que c'était le sentiment qu'on avait, c'est de se dire, ça corroborait le fait que ses choix de vie depuis des années, de ce qu'il faisait en alimentation et tout, étaient finalement bons par rapport à ce qu'il faisait, que c'était vraiment exactement ce qu'il fallait faire, quoi.
Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et la grande surprise, c'était finalement de réaliser qu'il n'avait pas besoin d'autant de ravitaillement qu'il ne le pensait au départ.
Ouais. Comme quoi, ça lui a fait moins de choses à manger, comme ça. Et peut-être que ça peut diminuer le budget alimentaire de certains, n'empêche ces histoires. Parce que bon, hey, c'est pas donné quand même un capteur comme Super Sapiens, c'est d'abonnement, etc. Le conseil, c'est de dire, on le fait sur une préparation 3-4 mois avant, et puis jusqu'à la course, et puis après, on n'est pas obligé de l'avoir toute l'année, quoi, je veux dire.
Ah bah non, on n'est pas obligé de l'avoir toute l'année. Après, une fois qu'on a compris comment on fonctionnait, je pense que c'est bon. On peut éventuellement, d'une année sur l'autre, si on a changé son plan d'entraînement, on change de discipline, pourquoi pas, je veux bien. Ça a un intérêt, ça a du sens. Mais si on fait tous les ans plus ou moins la même chose, je ne suis pas convaincue. Peut-être pour voir l'évolution aux fonctions de l'expérience que l'on prend dans un domaine. Mais autrement, il y a peut-être d'autres priorités. Je pense qu'une fois qu'on a compris au niveau du glucose comment on fonctionnait, si on se dit, voilà, c'est susceptible de changer de l'ordre de quoi, 10-20%, très bien. Est-ce que là, une fois qu'on a mis un mot sur les sensations, est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Est-ce que ce budget-là, si on souhaite le garder pour maintenir sa santé, on n'a pas intérêt à changer peut-être des choix alimentaires, passer sur du bio sur certains types d'aliments, ou essayer de consommer certains compléments alimentaires. Ben, on parlait du collagène tout à l'heure. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de certaines choses parce que justement l'alimentation aujourd'hui elle a changé par rapport au mode d'agriculture et que ben, pour compenser par rapport justement à la sursollicitation de l'organisme, ça ne vaudrait pas le coup de prendre soin de soi différemment.
C'est une très très belle conclusion. En tout cas, merci beaucoup pour le temps passé avec nous, pour tous ces apports, parce que alors, moi j'ai appris énormément de choses et j'espère que tout le monde a appris autant de choses, donc je te remercie. Pour ceux qui voudraient te contacter, c'est quoi le plus simple ?
Le plus simple, c'est de regarder sur mon site hautebazin.fr et puis là il y a un formulaire de contact, ça permettra tout le monde de voir ce que je fais et puis de me contacter soit par mail ou par téléphone ou via le formulaire de contact.
Et ben écoute, je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode
hein, merci beaucoup en tout cas Bertrand de m'avoir invité, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet qui me passionne.
Eh ben écoute, c'est passionnant ce sujet. C'est vrai que j'ai encore appris des choses. J'ai encore une dernière question subsidiaire quand même. Il existe des capteurs pour d'autres choses que le glucose ?
C'est très possible. Alors, il existe. Moi, j'utilise des outils, par exemple, qui me permettent de mesurer la densité urinaire pour voir si on est suffisamment hydraté. Alors, au quotidien, on n'en a pas forcément besoin. On regarde si les urines sont claires et tout va bien, généralement. Mais quand on est justement dans les préparations d'ultra, ça peut être quand même intéressant de savoir si malgré tout, c'est suffisant.
D'accord.
Et souvent, c'est loin d'être le cas. Et j'utilise aussi, alors ce ne sont pas forcément des capteurs, mais enfin, si quand même, des outils qui me permettent de mesurer les pertes en sodium et en potassium sur la transpiration. Et comme ça, ça permet de faire là encore du sur-mesure sur le salage des ravitaillements, que ce soit en boisson ou en collation solide.
Et ben voilà, et bien comme quoi, moi je ne savais pas que ces outils existaient. Moi, tu vois, sur les urines, j'étais resté à mes petites couleurs, là, de savoir si c'était jaune, orange ou quelle couleur ça avait.
Oui.
Mais enfin, après, c'est vrai que je ne suis pas étonné qu'il y ait des outils plus complets pour faire ça. Et l'histoire du sodium et tout, on en avait parlé des problèmes qu'on peut rencontrer, parce que c'est vrai que c'est des gros problèmes hein, sur les courses, sur l'endurance. Et donc voilà, ceux qui sont intéressés et qui ont des choses à cerner, bah écoute, ils pourront te contacter, en savoir plus, te demander un petit peu comment aller plus loin. Je répète, je remets tous les liens dans les notes de l'épisode, parce que je vois aussi que tu as des réseaux sociaux sur ton site qui sont mentionnés, donc je mettrai les liens. Et puis, bah écoute, merci encore beaucoup, Aude. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas le futur invité, mais bon, je comprends, on parle de sport, de nutrition, comment on progresse, comment on s'entraîne, comment on apprend plein de choses et tout sur le fonctionnement de notre corps. Et ben voilà. Et bien écoute, merci Aude. Ciao, ciao.
Merci Bertrand. À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.